Clou du Tubeuf, c'est une histoire de famille, commencée il y a plusieurs siècles. Celle des Puzelas, installée au Montil depuis le 15e. À cheval sur les territoires de Touraine et Cheverny, aujourd'hui le Clou du Tubeuf est un domaine viticole géré par Thierry Puzelas et ses filles Zoé et Louise. Parce qu'être paysan, c'est avoir une responsabilité écologique, Thierry Puzelas a converti le domaine en viticulture biologique dès 1996. Cette année, c'est un nouveau pari qu'il se lance, planter des plants de lignage, un cépage disparu du fait de sa faible production. Un projet porté par l'association Agir pour les cépages rares en Centre-Val de Loire.
Et après, on va reprendre les voitures, aller sur la route de Blois, c'est vraiment pas très loin, assister à la plantation des pieds en direct, en one shot, on va pas faire des photos, il fait beau. Et puis voilà.
Et puis après, on reviendra ici, si vous voulez.
Je m'appelle Thierry Puzelas, vigneron au Montil avec mes deux filles, Louise et Zoé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons planté les premiers pieds d'un projet qui va courir sur 10 ans, qui a commencé il y a 4 ans, qui est la renaissance d'un cépage qui avait disparu, qui s'appelle le lignage ou lignage de Blois, et dont on est très content de porter ce projet. Voilà.
C'est un projet qui a commencé il y a longtemps aussi.
Et c'est un projet que mon père avait eu dans les années 70 et qu'il a un peu foiré malgré lui. C'est-à-dire qu'il voulait planter ce cépage parce que son grand-père, mon arrière-grand-père, lui en parlait tout le temps. Et il avait cru trouver chez un pépiniériste des plants de lignage. Donc il a fait une parcelle et qu'il a planté en 76, qui était une année de canicule. Et avec les moyens d'arrosage possibles, il n'a pas réussi à tenir la parcelle. Il a récupéré une vingtaine de souches vivantes au terme de cette micro-parcelle qu'il avait faite. Qu'il a remis dans une vigne de Pinot Noir, donc on savait où elles étaient. On a commencé le projet lignage avec l'URGC à partir de ces souches. Sauf qu'à l'analyse génétique, on s'est aperçu que c'était du gascon et pas du lignage. Donc mon papa s'était fait flouer par un pépiniériste.
Bon, déjà, c'est bien du gascon.
Oui, c'est pas mal du gascon.
C'est pas mal parce qu'il y en a très très peu.
Mais du coup, on est reparti à zéro puisque ces vignes n'étaient pas du lignage.
C'est un cépage. Malheureusement, dont on a les seules infos qu'on a sur ce cépage, c'est de la littérature qui remonte plutôt au début du XXe siècle, mais plutôt de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle. On n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est un cépage. Les descriptions littéraires qu'on peut trouver sont plutôt flatteuses sur ce cépage, et donc ça nous a donné envie de le remettre en route. Non, maintenant, on a l'excitation de ne jamais avoir goûté ce vin et on verra dans quelques années ce que ça donne, quoi. Je trouve ça intéressant parce qu'on est un peu dans ce monde-là et en agriculture et en viticulture, on est un peu dans un truc uniformisé où il n'y a pas beaucoup de relief, on va dire, et qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose d'un peu singulier, c'est à la fois intéressant professionnellement et humainement. Donc voilà.
Tourner toutes les tiges au même sens.
Il faut rajouter au moins 3 poignées de terre en fait.
Ouais. Ils ont fait des trous ce matin et donc là on rajoute un peu de terre végétale au fond des trous et on place les pieds dedans. On recouvre de sable et puis voilà, ça va pousser. Alors moi je m'appelle Zoé Puzelas et je suis du coup avec ma sœur, on est les dernières, la dernière génération de la lignée de vignerons qui a cultivé ces terres-là. Je pense que déjà notre génération n'a pas forcément les mêmes volontés en termes d'installation. Peut-être que les gens s'envisagent plus dans une pluralité que juste une culture, la vigne en l'occurrence. Donc peut-être pas les mêmes surfaces, la même envergure de projet. Donc il y a pas mal de gens de nos âges là, qui s'installent sur 2 hectares. Et c'est pas nécessairement que pour commencer, c'est aussi qu'ils n'ont pas forcément de grossir et d'arriver à des domaines de voilà, 10, 15, 20, 25, 30 hectares. C'est plus vraiment, je pense... Ouais, c'est ça. Je pense que les gens ont envie de faire d'autres trucs. En tout cas, c'est ce que moi, je perçois autour de moi. Et donc, ouais, il y a pas mal de gens qui s'installent avec toutes les complications que nous, on connaît aujourd'hui et qui n'étaient pas forcément celles des années 90. Donc, je pense là, surtout aux aléas climatiques, c'est le bon moment pour en parler. Mais voilà, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui forcément te fait réfléchir. Là, on a notre cousin et un de ses amis qui s'est installé l'an dernier. Première année, ils ont rien récolté, quoi. Parce que le gel, parce que le mildiou, parce que ça devient compliqué de faire ce boulot-là. On a d'autres exemples de jeunes vignerons installés depuis 6 ans qui ont gelé absolument tous les ans. C'est délicat d'envisager d'investir. En termes de temps et aussi voilà, juste basiquement faut manger, donc c'est pas forcément la culture la plus simple aujourd'hui. Après ouais, il y a plein de jeunes qui se réinstallent pour faire du vin, beaucoup dans la région, parce qu'il y a une dynamique du vin nature, du vin naturel, du vin comme nous on fait. Donc il y a quand même une belle dynamique autour de la terre en tout cas.
C'est un endroit un petit peu planqué. Alors,
bah ouais, parce
on colle au pavillon.
C'est
mais,
ça qui est drôle, c'est qu'on on a l'impression d'être dans une zone pavillonnaire et puis là on arrive, c'est autre chose comme ambiance.
Ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a une bonne atmosphère ici. Et puis là c'est vraiment c'est pas encore la forêt de Russie, mais c'est la forêt qui est juste avant la forêt de Russie. C'est-à-dire qu'après il y a de la forêt jusqu'à Saint-Gervais. Alors le seul problème qu'il y a ici, c'est que c'est... On a l'impression qu'il y a eu des rêves parties de chevreuil toutes les nuits. Parce que dès qu'on laboure, il y a des pas de chevreuil, mais c'est dingue. On essaye d'apporter de la diversité au vignoble, donc en plantant pas mal de fruitiers autour. Vous avez vu que dans la parcelle où on a planté le lignage, il y a aussi des asperges. On a un troupeau de 15 brebis pour faire de l'éco-pâturage dans les vignes. On essaye de sortir un peu de ce schéma agronomique, de ce qu'on a appris à l'école, en fait.
Et cette transition vers le bio, est-ce que vous c'était depuis 95, c'est ouais. ça ? Et comment vous vous êtes formé au bio ? Ou est-ce que vous avez fait ça un peu sur le tas ?
On a fait ça très mal. À l'époque, j'étais associé avec mon frère qui est maintenant retraité. On a fait ça très mal. On savait que c'était une nécessité pour deux raisons. D'abord parce que quand on est paysan, on a la responsabilité d'un carré de terre qu'il est bien de pouvoir transmettre. Et puis d'autre part parce que pour faire du vin digne de ce nom, il faut que les sols soient vivants. Donc on avait cette double obligation de passer en bio, mais on l'a fait comme il y a eu une petite rupture entre la génération précédente et la nôtre. On l'a fait un petit peu tout seul en faisant plein de conneries qu'on a gommé au fil des années, quoi. En fait, pour tout vous dire, avant de revenir ici, moi je m'occupais d'un vignoble en Provence. Pendant 4 ans, que j'ai converti en culture biologique. Et je suis arrivé ici en me disant, bah, c'est hyper facile, sauf que c'était en Provence. En Provence, il pleut moins, l'herbe pousse moins vite, et il y a moins de maladies parce qu'il y a du Mistral. Et du coup, l'expérience ici était un peu douloureuse. C'était pas du tout aussi facile que là-bas. Donc, mais voilà, on s'est adapté à ça. Ça a pris pas mal d'années, mais maintenant les vignes sont en bonne santé, les sols aussi, et grâce à cette démarche-là, quoi.
Il y a eu surtout l'apogée de la vigne ici. Ça a été au 18e et 19e siècle. Parce que le vignoble de Blois était l'un de ceux qui ravitaillait Paris. Ça représentait environ, là ça a été étudié, 25% de la consommation de Paris, avec le vignoble d'Orléans. Et Blois était un port de vin. Il y avait d'énormes convois de vin qui remontaient la Loire jusqu'à Paris, en passant par un canal qui rejoignait le Loing et la Seine. Donc, ce qui fait, et à ce moment-là, moi j'ai vu sur le premier plan cadastral au début du 19e, il y a de la vigne partout dans le village. Aujourd'hui, ils sont les seuls. Je crois que, là c'est de mémoire, les deux tiers des surfaces agricoles, c'était de la vigne. Et ça a duré jusqu'à la fin du 19e, il y a eu le phylloxéra. Et puis après, il y a eu aussi l'exode rural. Mais encore, moi quand j'étais môme, il y avait encore... peut-être 10 ou 20 vignerons dans le village. Hein, mais... ben Michel Puzla, moi je suis donc l'aîné des 7 enfants. Thierry étant le dernier, donc il y a pas loin de 20 ans d'écart entre nous.
Quel est le cahier des charges pour un vin naturel, pour faire du vin naturel?
Alors maintenant il y a une association qui met au point une charte, une espèce de cahier des charges en quelque sorte, de production. Ben, l'idée globale c'est d'abord de disposer de raisins bio et ensuite qu'il n'y ait aucun intrant. L'idée philosophique c'est ne rien ajouter, ne rien enlever. Voilà. Après, on a quand même une petite obligation d'esthétisme, donc il faut que ce soit bon à la fin. Donc faire du vin naturel pour faire du vin naturel, ça n'a pas de sens. Ce qui est difficile, c'est de faire du vin naturel qui ne soit pas déviant, qui ne soit pas un nid à bactéries, qui soit un vin qui fait plaisir à tout le monde, quoi.
Et comment on réveille un cépage?
Alors ça dépend de son état administratif. C'est-à-dire qu'il y a des cépages qui sont quasi disparus, mais qui font partie du catalogue des cépages autorisés à la vinification. Donc ces cépages-là, il suffit de retrouver des souches, de prélever des sarments, de les faire regreffer, et on reproduit et on réveille ces cépages-là de cette manière. Mais les cépages qui ont complètement disparu, bah, c'est une démarche administrative qui est très longue, parce que pour que ce soit réinscrit au catalogue, il y a 3 ans d'expérimentation obligatoire. Donc, d'abord, il faut les planter. Une fois que ça produit des raisins, il y a 3 ans d'expérimentation, de micro-vinification dans des laboratoires pour voir les mecs qui quantifient l'acidité, le sucre, enfin des trucs comme ça, pour dire oui, ok, ça vaut le coup. Mais bon, c'est les méandres de l'administration française, mais du coup, réveiller un cépage qui a réellement disparu, là en l'occurrence il restait 2 souches connues de ce cépage au Centre Empélographique National, c'est une démarche de 10 ans minimum, voilà. Donc c'est long. Ouais.
Du coup là on est dans la cave, dans le chai de vinification. Donc on a plusieurs bâtiments, il y a ce chai-là de vinification qui est le seul du coup, et en face on a le chai d'étiquetage, de stockage, et ensuite on a les chais d'élevage. Donc ici ça sert pour toutes les cuves qui sont en fermentation, le déplacement des différentes cuvées, des vins durant les fermentations et après, avant les mises en bouteille, et l'élevage de certains vins, soit en inox, là, pour vraiment garder... le côté hermétique, garder toute l'aromatique, etc. Soit dans les cuves tronconiques derrière. Ça, c'est plutôt pour les rouges, pour élever un peu, mais avoir très peu de contact avec le bois. Et tronconique, ça veut dire que c'est en bois. C'est comme des fûts, mais posés sur le côté plat. Alors moi, je m'appelle Louise. Je suis une des 3 associées du domaine avec Thierry, mon père, et Zoé, ma sœur. Enfin, Zoé est revenue au moment où notre oncle partait à la retraite. Le domaine a été... parce que c'est un très vieux domaine, mais la génération précédente, c'était mon père et mon oncle qui l'avaient ensemble. Notre oncle est parti à la retraite parce qu'il était un peu plus vieux, et du coup, Zoé est arrivée en même temps, et moi, je suis arrivée un petit peu de temps après. Il y a vraiment une notion d'élevage dans la mesure où l'endroit où on le met, le matériau, le lieu et le contenant... Enfin, le contenant dans... la forme du contenant, tout ça a un impact direct sur le vin qu'on va faire, surtout, enfin, exclusivement quand on fait du vin naturel, dans la mesure où, du coup, nous, on élève sur les lits, donc avec tout le dépôt des mous, donc des jus après le pressurage. Et en fait, ces lits, elles ont un impact sur le vin. Donc la façon dont elles se déplacent en fonction de la pression atmosphérique et de la forme du contenant, et de l'oxygénation, donc du matériau, et du lieu, donc de la température, tout ça est vraiment lié avec le vin qu'on souhaite obtenir à la fin. Par exemple, dans les dolias, là, qui sont en argile, qu'on le fond plat, qui sont des amphores italiennes traditionnelles, on ne fait pas de macération à l'intérieur. Parce qu'en fait, le dépôt ne se comporte pas de la même façon que lorsque c'est en forme de V, enfin que le cul de l'amphore est pointu. Si c'est plat, en fait, et qu'il y a trop de dépôt, ça va trop interférer. Par contre, du coup, on va mettre des vins blancs tendus à l'intérieur, donc avec une grosse acidité. parce que dans le grès et avec cette forme-là, ça se comporte très bien. Mais c'est juste de l'expérimentation, en fait.
La tendance agricole et viticole nationale, c'est plutôt un truc très cadré, des monocépages qui répondent à une aire d'appellation, un turnover de vignes très rapide parce qu'on les fait produire beaucoup, donc au bout de 30 ans, elles sont plus rentables économiquement, donc il faut les arracher, etc. Nous, on essaye de planter des vignes pour plusieurs générations et de faire en sorte qu'on retrouve la diversité qu'il y avait avant, au 19e siècle, quoi. Mais à notre petite échelle, ça implique peut-être qu'on peut réveiller encore une dizaine de cépages comme ça dans le coin. Mais effectivement, heureusement qu'il y a des gens qui sont concernés dans le sud-ouest. En gros, toutes les régions où il n'y a pas une grosse valeur ajoutée sur le vin peuvent prendre le risque de faire cette démarche-là. Alors effectivement, à Bordeaux, en Bourgogne, en Champagne, il y a un peu moins d'expérience de ce type, mais bien qu'il y en ait quand même. Mais c'est beaucoup plus minoritaire parce que compte tenu du prix du vin, si on respecte pas le cahier des charges de l'appellation, ben on perd cette valeur ajoutée qui est liée à l'appellation.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on goûte ?
Oui, et ben c'est du menu Pinot 2020. Le nom de la cuvée, c'est le brin de chèvre. C'est le nom de la parcelle en fait où la vigne pousse. Comme tous les noms de nos cuvées, c'est tous les noms des parcelles.
Si tu devais décrire la saveur, est-ce qu'on dit saveur d'ailleurs ?
Oui, le profil quoi. Ce cépage-là, c'est un cépage qui a beaucoup d'acidité. Et nous, au-delà du fait que c'est vraiment le patrimoine local et que du coup, ça nous tient à cœur de le replanter, de le cultiver, de l'entretenir, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'aime bien. Parce que dans le contexte du changement climatique, encore et toujours, en fait, on a des degrés alcooliques qui sont de plus en plus hauts, et donc des vins qui sont de plus en plus costauds. Et donc nous, on est un peu à la recherche d'un équilibre, toujours, dans l'esthétique du vin. Et donc cette acidité-là, c'est un peu du pain béni pour nous, quoi, parce qu'elle tient le vin, même sur des gros degrés, quoi. Sur des années très chaudes, des millésimes qui sont très opulents, très charpentés, même si t'as 14 degrés sur ce blanc-là, l'acidité fait que ça maintient un équilibre et un vin qui est joli. C'est des cépages avec le romorantin qui peuvent, surtout vinifiés dans du bois, tendre sur des notes oxydatives. Donc tu vois, c'est très ample en bouche. Et ouais, santé.
Comment vous le trouvez ?
Très bon, assez fruité, avec une légère note, une légère amertume en finale. Et la structure assez moelleuse, pas avec du sucre, mais pas parce qu'il y a du sucre, mais parce que c'est assez équilibré. Alors du gras, de la rondeur, de l'alcool chaleureux, c'est assez intéressant.
Et quel est l'avantage pour l'environnement de réintroduire des anciens cépages ?
Alors pour l'environnement, c'est juste en termes de diversité, de biodiversité. On sait qu'on crève un petit peu de monoculture et de diversité de variétés qui se rétrécissent pour des raisons de production, de rentabilité, de choses comme ça. Mais en même temps, on sait que plus il y a de diversité, et plus les plantes se connectent les unes entre elles et améliorent leur défense immunitaire, etc. Et aussi, le fait qu'il y ait diversité, c'est quand il y a un incident climatique, tous les cépages ne sont pas touchés de la même manière, en fonction de leur date de débourrement, de leur date de floraison, de leur date de maturité. Donc en fait, plus on a de variétés différentes, mais plus on se met à l'abri aussi des incidents climatiques.
Réfléchir aussi à tout ça, quoi. Au lieu de mettre encore des systèmes de brûler, mettre des tourelles et un tas de choses économiquement qui vont nous coûter cher. Et je pense que déjà, beaucoup a changé depuis cette année. Beaucoup ont retaillé au moins un mois pur en retard, donc qui faisait autrefois. Et on commence à réfléchir à ça. Après, c'est une histoire d'organisation, tout ça. Je pense qu'il faudra penser à plein de choses comme ça.
Oui, c'est ça. Si c'est bien, si c'est adapté à la région, si c'est l'été, pourquoi ça ne le serait plus, quoi. Donc, puis après, c'est ça, la bonne maturité. Voir si c'est des cépages, je sais pas si c'est des cépages où il y avait beaucoup d'alcool ou pas.
Enfin, non, mais ce qui a été dit ce matin, c'est ça, tous ces cépages ont disparu d'une seule cause quand même, c'est que c'est une question de rentabilité et de goût et de mode, sont gelés à plein de ça, et puis de période de guerre et de choses comme ça qu'on peut modifier. Surtout la période juste après la dernière guerre mondiale, c'est qu'on a enlevé et fait sauter ces cépages-là parce qu'on avait une production en Afrique du Nord, l'Algérie, faire des coupages, le Sud a pu endiguer, replanter beaucoup plus, donc des vins à haut potentiel de rendement et de degré, c'était plus facile de faire ça que chez nous. Donc ces vins-là ont sauté, quoi. Et nous, pour nous rattraper, il fallait faire plus des vins de qualité pour qu'on puisse garder les vignes. C'est ça la différence qui a fait beaucoup disparaître tous ces cépages-là. Aujourd'hui, bon, bah, on se pose la question autrement, quoi. Moi, j'ai des hors-bois qui sont très très vieux et on traite nettement moins. C'est ça, ça plutôt c'est intéressant. Après, sur les nouveaux cépages, les vieux cépages, il faudra réfléchir à la vinification, on va en faire. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce vin pour que ça soit un côté économique? Parce que c'est bien joli de planter des vieux cépages, mais s'il n'y a pas de but économique, aucun intérêt, quoi. Mais je pense qu'il y a souvent quelque chose à réfléchir. Aujourd'hui, on a plus de pouvantail que plus de le panel qu'on avait une époque.
Nous, on arrive quand même sur un domaine où voilà tout, bah, Christian qui est là, Thierry, donc notre père, Hervé, tous les vignerons qui sont autour, si tu veux, ils ont fait le plus gros du travail. C'est-à-dire que c'est eux qui ont lancé cette idée de cultiver les vignes en bio, vinifier avec le moins d'intrants. Enfin, voilà, tout ce qu'on entend sous le terme vin naturel, quoi. Et donc, nous, on arrive sur ces exploitations-là qui sont déjà hyper belles. Donc, si tu veux, on va rajouter des choses. Je sais pas, des approches qui sont différentes sur, je sais pas, les modes de taille, les modes de culture. Est-ce qu'on laboure, est-ce qu'on laboure pas? Voilà, des choses qui évoluent aussi avec le temps. La connaissance évolue avec le temps. Donc, nous, on va essayer d'améliorer ça. On arrive quand même sur des exploitations qui sont hyper, hyper jolies, quoi.
À part ce qu'on en sait là, la personne qui vient de nous quitter, mon oncle, c'était lui, il est maintenant il est à la retraite, mais il était historien, il donnait des cours à la fac à Paris et il a travaillé toute sa vie sur l'agriculture ici au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et du coup, c'est lui qui a ramené le plus de documentation sur la façon dont on cultivait les cépages ici, le vin qu'on faisait, les contenants qu'on utilisait. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de famille, cette plantation de lignage. C'est pour ça que c'est un jour un peu particulier quand même. Là, c'est là où on recrée ce que notre grand-père voulait faire toute sa vie, qu'il pensait avoir fait et qu'en fait, il n'avait jamais abouti. Donc c'est la suite logique de... Donc non, c'est chouette. C'est-à-dire que les désirs suivent à travers les générations, quoi.